Je crois que toute la pensée de Nietzsche s'articule autour de la mise en question radicale de l'idée de raison et, par conséquent, de toute la métaphysique occidentale, effectivement, depuis Platon. Essayons de préciser ce point. Platon invente, pour ainsi dire, l'idée de raison. Selon lui, la raison, le logos, est ce grâce à quoi on doit arriver à dominer la réalité sensible, à la dépasser, et en même temps à instituer un ordre qui soit satisfaisant pour l'homme. L'idée fondamentale de Platon est sans doute l'idée de discours universel grâce à quoi la paix pourrait être instituée entre les hommes. Or, cette idée platonicienne s'infléchit bientôt. Aristote lui donne son contenu métaphysique. Et lorsque nous accédons aux métaphysiques modernes, nous voyons que l'idée centrale est l'idée de vérité. Il s'agit non seulement pour la métaphysique occidentale de définir un discours universel, un discours qui soit recevable, mais il s'agit aussi de garantir cette universalité par la vérité. Or, la vérité ne peut pas être la vérité de ce monde-ci, nous disent les métaphysiciens, car ce monde-ci est un monde fuyant, est un monde que l'on ne peut pas saisir. Donc, la vérité va être adéquation, convenance à un arrière-monde. Et cette entreprise métaphysique va se développer jusqu'à Kant, Kant dont Nietzsche reconnaît les mérites. Il y a des textes de Nietzsche où il semble même qu'il ait voulu reprendre la critique kantienne en la radicalisant, en la poussant beaucoup plus à fond. Et la pousser à fond, pour Nietzsche, cela veut dire quoi? Cela veut dire refuser l'impérialisme de l'idée de vérité. Refuser que le discours soit jugé seulement au nom du vrai. Et à cette idée de vérité, Nietzsche substitue un concept qu'il nous est encore difficile de saisir, car mon idée, c'est que nous n'avons pas du tout fini de décrypter Nietzsche. Nous n'avons pas fini de le comprendre. Nous commençons seulement. Et c'est certainement autour de cette opposition entre la catégorie de vérité et la catégorie de sens que peut commencer à s'amorcer une compréhension de ce qu'a été la pensée de Nietzsche dans sa profondeur et dans sa valeur de contestation. Selon Nietzsche, la philosophie de l'histoire, celle de Hegel en particulier, est fille de la raison métaphysicienne. Elle n'en est que le développement. Hegel a prétendu achever la métaphysique occidentale en développant le savoir absolu, qui est au terme du cours de l'histoire humaine. En réalité, il n'a fait que renforcer les perspectives de cette métaphysique occidentale selon Nietzsche. Et la question qui se pose est de savoir si l'on doit faire une philosophie de l'histoire ou, comme nous le dit Nietzsche, une généalogie. Dans la troisième intempestive, il attaque avec la plus grande vigueur tous les modes historiques de son époque, toutes les formes de critique historique, avec cette idée que l'histoire constitue au fond un blocage dans le passé. La considération historienne, au lieu de nous permettre d'être créateurs, nous donne le ressentiment, de l'inéluctable. Et Nietzsche veut se situer à une espèce d'origine qui n'est pas une origine historique, mais qui est une origine généalogique, c'est-à-dire sur ce qui est fondamentalement à l'origine des diverses valeurs dans ce devenir que l'on en sert par la suite, rétrospectivement, en l'appelant histoire. Je crois que pour bien comprendre la chose, il faut revenir à cette idée que pour Nietzsche, ce qui existe, et je prends le terme dans toute sa simplicité, ce ne peut être que ce que les philosophes appellent apparence. Il n'y a rien d'autre que les apparences. Nietzsche est d'un empirisme radical. Et la tâche de la pensée devant ce réseau d'apparences qui s'entrechoquent comme les dés selon le hasard, la tâche de la pensée, c'est ce qu'on appelle une herméneutique ou une technique de l'interprétation. Ne cherchons pas à légitimer les formules de Nietzsche, soit par une logique, soit encore par des références à des énoncés scientifiques. Essayons de savoir en quoi le texte nietzschéen nous permet de décrypter le réel de telle manière que nous puissions nous instituer nous-mêmes créateurs de valeur. Il faut avouer d'ailleurs qu'à cet égard, Nietzsche est extrêmement pessimiste sur la possibilité qu'il ait laissée à l'homme du XIXe siècle, et même je crois du XXe, de se faire créateur de valeur, puisqu'il annonce l'âge du nihilisme. Le nihilisme a commencé avec Socrate. Lorsque Socrate a commencé à déprécier l'apparence au nom de l'essence, le monde du nihil commençait. Et l'humanité, avec le Christ d'abord, puis la philosophie, puis la civilisation bourgeoise, s'est enfoncée toujours un peu plus dans ce nihil, dans cette dépréciation systématique de la vie, au profit, jadis, du concept, au moment de la philosophie, maintenant, au profit de quoi ? De l'utilité, de l'intérêt. Et il faut noter les pages admirables que Nietzsche écrit contre l'utilitarisme, ce qui dissipe tout équivoque en ce qui concerne son pragmatisme, même son pragmatisme biologique. D'ailleurs, il était diablement anti-darwinien. Donc, le nihilisme, Nietzsche, ne l'institue pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, ou ne le promet pas. Il le constate. Il constate que la civilisation, que nous appelons nous maintenant industrielle, que cette civilisation industrielle est une civilisation qui rend tout équivalent, qui fait disparaître toutes les qualités, qui abolit toutes les différences. Mais ce nihilisme se poursuit. Le nihil continue sa tâche de sape. Les esclaves, aujourd'hui, nous dit-il, sont au pouvoir et égalisent tout. Mais il y aura un renouveau, où il y aura une phase ultérieure au cours de laquelle le Nil lui-même sapera les esclaves, sapera leur domination et permettra l'apparition, eh bien précisément, du surhomme. Ce qu'est ce surhomme ? Il ne nous est pas laissé de l'imaginer. Et là, Nietzsche me paraît extrêmement rigoureux et sérieux. Nous pouvons nous situer aux origines pour penser les valeurs fondamentales, pour faire la généalogie. Nous ne pouvons pas aller plus loin dans notre investigation. Nous ferions encore des anticipations dignes de la philosophie de l'histoire. On a coutume, à cause de la difficulté de textes comme Zarathoustra, de prendre Nietzsche pour un poète. C'est peut-être un grand poète, je n'en disconviens pas, mais son but n'était pas la poésie. Son but, c'est la rigueur. C'est la rigueur absolue. Et effectivement, on peut songer à quelques récupérations. Et encore, je crois qu'il faut ici prendre bien garde. Ce qui oppose Nietzsche à la métaphysique classique, il s'en explique très bien, c'est que la métaphysique classique pose toujours la question « qu'est-ce que ?» alors que lui pose la question « qui ?». Lorsque Socrate pose la question « qu'est-ce que la vérité ?», Nietzsche substitue à ce problème qui lui semble non seulement dénué d'intérêt, mais encore extrêmement dangereux, cette autre question « qui cherche la vérité ?». C'est cela, l'enquête généalogique, remontée jusqu'à la volonté qui se fait volonté de raison dans ce cas-là, comme elle se fera plus tard volonté d'utilité. Jamais volonté de puissance chez Nietzsche ne signifie volonté de domination. Voilà. Effectivement, la volonté de puissance exclut même la lutte, puisque la lutte, c'est toujours une lutte entre des esclaves qui veulent se venger et des maîtres qui sont en train peu à peu de devenir esclaves en se laissant, en quelque sorte, contester par la lutte que les esclaves déclenchent contre eux. La volonté de puissance est à l'œuvre dans toutes les forces qui se manifestent dans le devenir. La volonté de puissance n'est pas ici ou là, elle est partout. Elle se manifeste d'ailleurs, il faut le noter, aussi bien chez les maîtres que chez les esclaves. Mais chez les esclaves, la volonté de puissance se manifeste comme une force réactive ou rétroactive, comme une force qui fait décroître et qui tend à détruire, qui, comme je le disais tout à l'heure, tend à égaliser. Il est bien évident que la volonté de puissance telle qu'elle s'exprime dans la maîtrise, c'est une pure affirmation. Ce n'est pas une contestation, une mise en question, c'est une affirmation dans le sens de la vie et qui ne vise à rien détruire. L'idée de Nietzsche, c'est d'être le messager de joie, c'est-à-dire le créateur constant de valeur, qui ne se satisfait jamais de la valeur qui a été engendrée. C'est dans l'épreuve extrême du nihil que l'être peut peut-être réapparaître.